ce que tu disais non, tout à l'heure, la maison France. La maison France, voilà.
La maison France.
La maison France, c'est l'intérêt aujourd'hui, effectivement, de Bernard Cazeneuve. Il dit, bah, voilà, on s'assoit sur certaines choses. Là, on est dans une situation politique qui est quand même un peu compliquée. Donc, est-ce que la gauche peut être responsable aujourd'hui à l'Assemblée nationale et ne pas faire barrage systématique aux propositions du gouvernement? C'est la question qu'on va se poser pour les jours et les semaines à venir.
La gauche, il faudra qu'elle soit modérée. Comme le discours de Sébastien, comme le discours de
Cazeneuve,
merci. Si le discours n'est pas modéré, ça ne peut pas marcher. Enfin, lui, il l'explique. En plus, il est tellement modéré qu'il dit « moi, je ne souhaite pas l'échec de Barnier ». Mais la gauche, on le sait qu'elle n'est pas modérée.
Il est très, très lucide, d'ailleurs. Et je trouve que Cazeneuve ou Barnier, dans l'esprit du peuple, on va appeler le peuple, c'était pareil. Moi, j'aurais été ravi de voir M. Cazeneuve, et je suis ravi de voir un gars qui trouve le moyen, comme il le dit, de monter l'Everest sans moufle. Hein.
Vous avez noté quand même qu'on revient à d'anciens politiques. Chose qu'on avait voulu chasser à un moment. On s'était dit, on en a marre, les éléphants, les politiques, ceux qui ont passé leur vie là-dedans. On veut du nouveau, on veut des jeunes. On a eu des jeunes, un petit peu, y compris
dans nos circonscriptions. Elle s'appelle comment, la députée?
Valérie Rossi.
Ah, excusez-moi.
Jean-Paul.
Donc oui, le retour d'une certaine posture des hommes politiques, quoi.
Oui, des hommes d'État. On appelle ça. Voilà, moi, j'ai pas de des hommes d'État, c'est-à-dire qui font passer l'intérêt des citoyens et des Français avant leur propre intérêt. Mais beaucoup de mal sur cette histoire que la gauche redevienne la gauche, parce que comme ils sont en campagne permanente et que le programme unique qui a été pendu je pense que ça a été travaillé très rapidement, mais sur un coin de table le soir du 9 juin, et que ce programme politique fait aussi la part belle à certains pans de LFI, hein, c'est-à-dire le programme de LFI, l'augmentation des 10 points d'indice du fonctionnariat, etc. Bon, ouais. Tout ça, ils sont liés avec ça. Donc demain, si jamais ils se dissocient, il va y avoir deux choses. La première, donc LFI va partir, NFP va partir, LFI chacun dans son sens. Et puis surtout, je pense qu'ils vont être décriés par rapport à certaines franges de population qui ont cru dans cette politique extrémiste de gauche pour mettre ces députés à l'Assemblée nationale. Et si demain il y a une dissolution, ce sera une trahison et mon ambition personnelle, qu'est-ce qu'elle va devenir, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, j'avais le secret espoir que la gauche, que la gauche de gouvernement redevienne la gauche de gouvernement en disant, bon, écoutez, maintenant, on se recentre derrière Glucksmann. Oui. Je crois que Glucksmann a pris une volée de plomb très rapidement. On lui a expliqué que finalement...
Merci d'être venu, au revoir et à bientôt.
Bravo, félicitations. L'Europe est à toi.
Maintenant, tu rentres chez toi.
Il n'est pas du tout arrivé à s'imposer alors qu'il avait quelques heures devant lui pour justement dire j'ai fait 8 fois plus que fort. Et donc voilà, le problème est résolu. Quoi.
Tu disais avec sagesse. Tu disais que tu croyais que le budget, il n'y aurait pas de problème. Donc il va passer.
Ouais, je pense qu'il va passer le budget. Il va y avoir des amendements, des choses extraordinaires, mais je pense qu'il va passer sur l'abstention du RN.
Alors, c'est un budget, vous avez vu, où moins de fonctionnaires, plus d'impôts pour les grandes entreprises et les plus riches. On va freiner les dépenses en renouant avec une chose qu'on n'aime pas trop, hein, l'augmentation des impôts. Taxe d'électricité, le gaz.
Ils vont prendre partout. Hein.
Taxe pour les voitures, les billets d'avion, hein, j'ai pris au hasard, le remboursement des consultations par la Sécu qui va baisser, la hausse des tarifs des mutuelles, le montant des pensions de retraite, vous le savez, et notamment toi, tu le sais.
Ah oui, ça oui. Mais oui, mais c'est comme ça, point.
Jusqu'en juillet prochain. Vu le merdier dans lequel on est, est-ce que vous êtes choqué ou pas qu'on demande à tout le monde de mettre la main à la poche?
Déjà, je ne pense pas qu'on demande à tout le monde.
Tout le monde.
Non, mais les gens, bon, vous allez me dire, les pauvres, ils ne payent pas d'impôts.
Ils ont la TVA déjà.
On dit les pauvres, hein,
ils ont la TVA, ils ont le gaz, ils ont l'électricité. Tout le monde est touché.
Je croyais que tu parlais des impôts.
Non, je te parle de... Est-ce que
qui oserait déjà?
Est-ce que c'est normal? Parce que c'est fini le quoi qu'on en coûte là. Quoi qu'il en coûte plutôt.
Il n'y a plus les moyens là. Hein. Je crois que tout le monde le comprend. Hein.
Et j'ai l'impression qu'on a aussi oublié la période où le quoi qu'il en coûte, on a sauvé plus d'un.
On a sauvé et après, faut savoir sortir. Moi, je pense que c'est ça qui a été problématique. Sortir du quoi qu'il en coûte.
Eh oui.
C'est-à-dire que quand on a commencé en 2020 à faire les chèques et à laisser quand même du verre sur nos territoires, si rien ne s'était passé, combien de stations auraient mis la clé sous la porte?
Oui.
Combien l'économie, qu'est-ce qui se serait relevé de cette économie-là de la montagne? L'année où aucune remontée mécanique
a fonctionné.
Faut quand même pas l'oublier.
C'est sûr qu'on est bien placé, nous. Hein. On est bien placé pour dire ça nous a sauvés.
Alors, le déficit de la France, il est énorme, on le sait. Beaucoup disent qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu des pansements qui vont être mis avec ces économies, parce que notre déficit est, paraît-il, beaucoup plus structurel que conjoncturel.
Ouais, ouais.
Donc, est-ce qu'on n'a pas trop dépensé depuis des années et des années et des années dans le social, dans le fonctionnement? Notre pays est le plus désindustrialisé de l'Union européenne, hormis la Grèce. L'endettement en 78, j'ai repris les chiffres, hein, en pourcentage du PIB, c'était 20% grosso modo. 2000, 60%. 2015, 95%. 2021, 113%.
Et là, 131% actuellement.
Est-ce que là, on n'est pas...
Et en regardant également l'évolution du PIB depuis ces années-là. Quoi.
Tout à fait. Est-ce qu'on est effectivement dans un problème donc de déficit qui est structurel, quoi?
Oui, et qui est gravissime. Hein, là, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il va falloir peut-être 25 ans. On fait une ou deux ou trois décennies pour essayer de revenir aux environs de 1500 milliards.
Parce que là, on va prendre l'exemple des qui vous intéresse, les deux retraités que j'ai à ma table, là, c'est que, bon, d'accord, on va geler. On va geler jusqu'en juillet, mais en juillet, on va repartir.
Oui, oui.
Donc, le déficit, il sera à nouveau là, quoi.
Du même ordre.
C'est quoi la solution?
Du même ordre d'idée, en augmentant les TVA, le DF, les compagnies, ça va faire moins de rentrées d'argent au bout du compte. Donc, ça risque pas d'aggraver, mais de freiner fortement la possibilité de réduction.
Parce qu'on a beau retourner le problème dans tous les sens, non, c'est quand même compliqué.
Si j'avais la solution, peut-être que j'aurais été appelé.
Sébastien Vier.
Nous à Villars-Saint-Pancras, on a fait le maximum, mais ils nous ont pas écoutés. Hein.
Hein non, mais comment imaginer la suite, quoi? Moi, je voudrais pas être pessimiste.
Je voudrais citer Claude Allègre.
Ah.
Allons bon.
Qu'est-ce que je vais dire?
On va dégraisser le mammouth.
Le mammouth. J'avais adoré à l'époque, et ça s'est resté dans les annales. Il y a le maire de Cannes qui dit ça plus poliment.
Lisnard, oui.
Comment il s'appelle?
Lisnard.
Ah, c'est pas Valérie Rossi, non?
Rossi, rappelle-moi, c'est...
c'est la députée.
Ah oui, pardon.
Le président David des maires, le président des maires de France.
Exact.
Qui est aujourd'hui, puisqu'on enregistre jeudi, il est aujourd'hui à Manosque pour la réunion des maires du 04.
D'accord. Donc lui, au lieu de parler de mammouth, de régime de mammouth, il dit réduire le périmètre de l'action publique. Je trouve que c'est assez... on rit, mais il y a quand même quelque chose... Bon, alors, notre invité, tu es un enseignant, c'est ça?
C'est ça.
Donc, tu es fonctionnaire.
Ah bah oui, alors tu vas être dégraissé aussi, alors.
4000?
4000 en moins. Alors, 4000 en moins, alors que ça fait des années que vous réclamez en plus.
Oui, non mais... ouais. Ce qui va être problématique, et je reviens sur le territoire, c'est qu'on applique, si on applique la directive nationale, parce qu'à l'heure actuelle, on sait qu'on a des baisses de population, on a des baisses de jeunes dans nos écoles, etc., dans nos villages, on le sait. Mais il y avait quand même une adaptabilité des directives qui arrivaient du niveau national au niveau, on va dire, alpin. Et si demain, on commence à appliquer pur et dur ce qui se dit en disant, ben voilà, on va supprimer 4000 enseignants, mais donc du coup nous sur nos territoires des classes qui sont à 12, qu'est-ce qu'on en fait? On les regroupe, on fait des regroupements scolaires, des classes qui sont à 14, qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut être sur un territoire haut alpin comme le nôtre, ça peut être purement catastrophique. Alors qu'on avait encore un petit peu cette latitude-là. Alors j'espère que... alors là, ça va se discuter dans les hautes sphères, mais on a des députés aussi qui peuvent porter notre voix. Et là, j'espère que nos députés vont vraiment monter au créneau en disant qu'il est important aussi de considérer, parce que je crois qu'à une époque, le président avait dit qu'il ne se fermera pas d'école. Pas d'école. C'est pas de classe. D'école. D'accord ? Sans l'aval des maires ou des élus locaux. Là, sur des classes, il faut bien le voir, c'est les vies de nos villages. Et si demain on commence à en réduire une, deux, trois, et qu'on commence à faire des regroupements, oui, c'est la vie de nos villages, quoi, montagnards. Donc voilà. Mais je pense que, bah, pour revenir sur l'effort, bien sûr qu'il va falloir qu'on participe, mais l'effort serait peut-être plus entendu si la vision de l'emploi de l'argent public... au niveau des citoyens, s'appréhender un peu mieux, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, on entend il faut économiser. Bon, le prix du carburant, vous avez vu, le Front National n'est pas arrivé au pouvoir, mais on a perdu 20%. Donc voilà, il faut économiser, il faut. Et en fait, beaucoup de citoyens ne se retrouvent pas dans cette politique ou dans la mise en œuvre des politiques générales. Pour moi, la première chose. Il faudra peut-être se remettre autour d'une table avec peut-être des états généraux, mais c'est de regarder ce qu'est le régalien dans notre pays. L'État doit s'occuper de quoi ? De quoi ? De justice, la police, l'éducation.
L'armée.
Voilà, mais refixer ces objectifs-là, et ensuite, sur ces objectifs, une fois que les axes sont donnés, peut-être déclinés sur les collectivités, c'est-à-dire les régions et les départements, ce qu'il faut qu'ils prennent comme compétences, quoi. Premièrement, alors après les économies d'échelle, on a vu ce que ça donnait dans les fusions de régions. Hein. Il fallait fusionner parce que là, on allait faire des économies d'échelle. Aucune économie d'échelle, ouais. Puisqu'il n'y a rien qui a été vu. Et pareil, sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, par exemple, là, on est sur des visions sur 40 ans, quoi. Et là, on est dans la panade dans les trois prochains mois. On y est là. Donc, moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut participer à l'effort. Mais cet effort est d'autant plus soutenu, compréhensif, comme vous voulez, que les politiques publiques qui sont appliquées sont comprises par les citoyens. Quoi.
Tu es prof, tu es instite ?
Je suis prof.
Prof ? Prof de ?
Maths.
Où ça ?
Au lycée professionnel à Alpédurance, à Embrun. On fait du bois, nous. Du bois et de l'électro. Ben oui. On forme des citoyens, oui, des charpentiers, des menuisiers, des électriciens.
On va aborder un autre sujet. Je regardais l'heure tournée. Oui, l'ultra-violence de la société. Tu en parlais, justement, hein, les fameux faits divers, hein, qui sont mis en avant sur les réseaux sociaux, sur les télés, sur les radios. L'ultra-violence des mineurs, ce gamin de 14 ans engagé comme tueur à gages, hein, et qui tue de sang-froid, hein, un chauffeur VTC, la violence contre les médecins, on l'entend de plus en plus, les médecins passés à tabac s'ils ne délivrent pas d'ordonnance ou d'arrêt maladie, la laïcité mise à mal dans les écoles, les lycées, on a eu le cas de cette jeune fille voilée dernièrement qui a refusé d'enlever son voile, qui a giflé sa prof et c'est parti en pugilat. On a le sentiment que certains en ce moment, depuis un certain temps, testent nos lois, persuadés qu'ils ne seront pas inquiétés par la justice française, on le voit également avec les OQTF. Hein. Alors, on ne va pas stigmatiser, bien sûr, les réseaux sociaux, mais on a le sentiment qu'ils ont quand même fait plus de mal que de bien à notre jeunesse. Vous avez le sentiment que cette manière de tester nos lois et la justice qui a du mal à répondre ? Ah ben oui.
Bon, alors moi,
bonne question.
Je vais taper fort.
Allez, tapons.
Tout à l'heure, je citais Claude Allègre.
Oui.
Maintenant, je vais citer Charles Pasqua.
Ah, Charles Pasqua.
Ça, je ne pensais pas dans ma vie faire ça une fois.
Tu vois, comme quoi. Hein.
Mais il a dit une fois...
Est-ce que tu peux le dire avec l'accent, s'il te plaît ?
Ah, que Charles Pasqua. Ouais, non, mais Charles, il a dit une fois une phrase incroyable. Je ne sais pas si... Non, tout à l'heure, tu avais compris, mais... Non, Sébastien. Non, il a dit... C'était en plein attentat terroriste et tout. Il a dit, il faut terroriser les terroristes.
Oui.
Vous vous souvenez de ça ?
Mmh. Voilà. Tout à fait. Tout à fait.
Là, pourquoi je fais cette introduction un peu violente, mais j'ai vraiment l'impression que la terreur n'existe pas pour respecter un système où il faut aussi avoir peur. Pourquoi toi, tu, en sortant, tu ne vas pas arracher le sac d'une mamie
Bah oui, il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses.
Il y a l'éducation, il y a...
La loi.
Oui, bien sûr, évidemment.
La loi.
Non, mais moi, c'est même pas la loi qui.
C'est ta nature.
Pas, c'est même pas la loi, voilà. Je ne voudrais pas l'idée d'aller m'attaquer à une vieille dame.
Pourquoi Jean-Paul, tu vas pas piquer un sac à une vieille dame?
Ou un vieux monsieur, comme Jean-Paul, par exemple. Tu t'imagines que j'aille agresser Jean-Paul pour lui piquer son porte-monnaie?
Tu sais ce qu'il te dit, le vieux monsieur? Le vieux monsieur, il te dit merde. Hein.
Donc oui,
non,
oui,
c'est fou.
Ils ont plus peur, quoi.
Et voilà, quand il y a des problèmes, alors on décapite des profs, on en tue. Bah, oui. Samuel Paty, c'était rien que ça. Je sais pas si vous avez lu les commentaires de sa sœur là. Hein, qui a dit, mais il se passe rien. Les politiques regardent ailleurs, ou alors il y a d'autres politiques. On revient toujours sur LFI. Alors eux, ils font des manifestations avec les Palestiniens, avec le foulard sur.
Je t'interromps. C'est bien. Tu parles de Samuel Paty. De Dominique Bernard assassiné par des terroristes islamistes. Et il y a eu un hommage qui a été rendu.
On vient de dire le mot pour la première fois là. Oui. Vous avez remarqué que depuis 15-20 jours, le mot islamiste revient sans arrêt, quelle que soit la chaîne de télévision ou de radio.
Oui.
Réseaux sociaux, ça je m'en contrefous. Mais ce mot est souvent dit, alors qu'il n'était pas dit il y a encore 6-8 mois.
Ouais. Et ben en tout cas, là, c'est revenu sur les devants de la scène avec cet hommage qui était rendu donc à ces deux profs assassinés. Et Sandrine Rousseau, justement, cette chère Sandrine Rousseau était invitée, justement, et lors d'une matinale, journaliste lui a posé la question.
Pensez-vous qu'il y a une offensive d'un courant islamiste radical à l'éducation nationale? Est-ce que c'est un fait pour vous?
Mais il y a une offensive de tous les conservatismes sur l'école. De toute façon, l'école est un lieu où il y a des offensives.
Mais celle-là en particulier, non?
Mais celle-ci, comme il y a un conservatisme, il y a aussi une offensive des conservateurs catholiques. On le voit d'ailleurs aux États-Unis dont on parle.
Il n'assassine personne, non?
Ben, en tous les cas, il retire les livres des bibliothèques, par exemple, ce qui n'est pas bon signe sur la manière dont on éduque. Donc moi, je suis contre tous les conservatismes. Celui-ci est dangereux, il n'y a pas de problème. D'autres aussi le sont. Et donc, je voudrais vraiment que l'on préserve l'école des assauts des conservatismes.
Comparaison n'est pas raison. Hein.
N'importe quoi. Et encore là,
ça fait mal.
Et encore là, vous avez un journaliste qui dit, mais eux, ils ne tuent pas.
Oui,
d'habitude, les journalistes, excuse-moi Thierry, mais,
oui, non, mais c'est aberrant,
ils la ferment souvent.
Oui, non, mais, ouais. Mais la moins, comparaison est hallucinante. Comparaison est hallucinante.
Elle n'a pas accepté la Saint-Barthélemy, j'en sais rien. Enfin bon, elle s'est complètement à côté. Elle me casse les pieds personnellement. Ouais, chaque fois qu'elle l'ouvre, elle dit une bourde.
Sébastien,
toujours revenir sur le genre, sur tout ce qui fait son ses travers, etc. Bon bref, dans l'éducation nationale, on a des difficultés, ça c'est clair. Moi mais on a aussi parfois et souvent la force de réussir à sortir. Moi, je le vois dans les lycées, dans le lycée dans lequel j'exerce, de sortir des gamins qui ont une vie compliquée, une vie de famille compliquée. Mais on arrive encore dans nos secteurs de montagne, là, on arrive encore à les tirer, à leur amener vers un avenir qui leur permette de travailler, de s'épanouir, etc. Je dirais pas les mêmes choses dans les quartiers, parce que moi j'ai certains collègues qui me disent qu'ils ne se retournent plus jamais au tableau, c'est impossible en classe, parce que il faut être en visu avec la classe, il faut être en confrontation face à face pendant une heure pour accrocher, et puis surtout pour éviter que certaines dérives se passent. Mais je pense que ça, l'éducation nationale essaye de faire le job, mais il y a aussi l'éducation des parents, quoi. Et là, on ne peut pas se substituer à ça, quoi. Les parents qui, lorsque leurs enfants leur posent des questions à la maison, bottent en touche, ou leur répondent n'importe quoi, etc. On a ce déficit-là, quand même. Il faut le considérer aussi. Il faut que les parents prennent en considération l'éducation de leurs enfants. Et que la société française ne peut pas tout faire. L'éducation nationale, même tout ce qui est animateur de quartier, etc. S'il y a une dérive, et vous l'avez vu, le gamin de 14 ans quand même, Moi j'ai eu des enfants, ils ont passé par 14 ans, mais je sais pas, en aucun cas, je peux imaginer ça dans la tête de mon gamin, quoi. Pourquoi ? Bah parce que quand il y avait des problématiques au lycée, au collège, etc., on en discutait à table, on essayait d'échafauder des réponses, de dire bah, pourquoi tu penses ça ? Pourquoi tu dis que cette frange de population-là, c'est tous des nuls ? Pourquoi tu dis ça ? Bah parce qu'on en a parlé dans la réponse. Ben oui, mais non, mais regarde un peu, que, voilà, on essayait de recentrer.
Ça leur permettait de reprendre une partie de ta réaction, quoi. De dire,
et puis
oui,
surtout de réfléchir.
Ben oui. Et voilà, ben c'est le principe, hein, de
voilà, donc
d'une discussion.
Donc c'est oui, c'est mais bon, c'est fait de société. C'est vrai que on les connaît, et ouais, on les découvre au fur et à mesure. Et ils sont de plus en plus, oui, de plus en plus violents. Ce qui me choque, c'est que finalement on a un fait alors qui est horrible, terrible, etc. Et puis tout de suite le politique prend la parole,
ouais,
et dit on va faire une loi. Ouais. Et ça c'est pas une vision d'avenir pour le pays quand même. À un moment donné, pour moi la vision d'avenir, c'est appliquons les lois. La justice peut-être un peu plus rapide. Moi ce que je vois au niveau local, c'est que le tribunal de Gap fait une note d'information chaque mois à destination des maires, dans lesquelles on a la réponse judiciaire de ce qui s'est passé sur le territoire. C'est-à-dire, on a trouvé, on a attrapé un trafiquant de drogue il y a 6 mois, comparution immédiate.
Ouais,
voilà la sanction qu'il a eue. Mais il y a sanction. Dans l'inconscient des gens, par rapport aux fautes qui sont faites, il n'y a pas de sanction. Et c'est pour ça qu'aussi il y a cette impunité-là. C'est-à-dire que, bah oui, lui, il peut faire ça, et puis finalement, il n'a pas été puni. Mais le délai fait que, peut-être que la justice statuera dans 2 ans et demi.
C'est pas possible.
Et c'est pas possible.
C'est pas possible. Et c'est pour ça que les comparutions immédiates, et je vois que j'ai l'impression que dans les Hautes-Alpes, on en fait de plus en plus, ça permet de calmer un peu les gens en disant, tiens, il y a sanction.
Et
s'il doit y avoir sanction.
Et la réponse qui a été apportée, qu'on le sache, quoi. La réponse qui a été apportée.
On va terminer avec un dernier sujet. Et alors c'est un sujet caché.
Cher ?
Oui, non, caché.
Caché.
Parce que je vous en ai pas parlé, mais l'indice de perception de la corruption, si je vous en avais parlé ? Je vous avais dit d'aller jeter un œil ?
C'est
une surprise. Voilà, indice de perception de corruption pour 2023. Les chiffres sont sortis en début d'année. Je suis retombé là-dessus pour voir un petit peu où on se situait. La France qui stagne encore. Hein. Eh oui, on est 20e. Alors vous allez me dire 20e sur 180 pays, c'est plutôt pas mal. On est d'accord. Mais bon, la faute au manque d'exemplarité du pouvoir exécutif et au manque d'indépendance de l'autorité judiciaire. Ça me permet de retomber un petit peu là-dessus sur le sujet qu'on vient d'aborder. C'est Danemark qui est en numéro 1 devant la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, et Singapour et la Suède 6e. Comme quoi les pays du Nord...
Oui.
Hein, ils sont quand même voilà,
dans plein de choses d'ailleurs.
Donc nous sommes 20e, pour info la Grande-Bretagne 21e, les États-Unis 23e, c'est plutôt pas mal. Bon, la Chine 76e quand même.
Et
la
Russie, quand même, ils s'en sortent pas mal. Hein.
L'Inde est 92e, la Russie 142e,
oui, normal.
Sur 180. Les derniers, je vous ai pris les trois derniers. La Syrie, le Venezuela et la Somalie. Voilà, il paraît que c'est là-bas où il y a le plus d'argent sale qui circule.
Mbappé, il n'aurait pas dû aller en Suède, il aurait dû aller en Somalie. Alors.
Et donc, je voulais terminer... c'est ça, oui. il aurait payé. Donc, et je voulais terminer sur une touche un peu légère. Hein,
allons-y.
En parlant d'argent sale, quand on parle de corruption, d'arrangement entre amis, je suis tombé sur l'avocat que vous connaissez, Robert Bourgui, figure de la France-Afrique, hein, celui qui a fait tomber François Fillon. Vous en souvenez, les fameux costumes. Voilà.
Oui, qui avait dit, il marche dans la rue, souvenez-vous de ce passage merveilleux. Il va acheter les costumes chez Arnis, et il dit, j'aime pas l'expression, mais il dit, je vais me le niquer. Là.
Oui, c'est ça. Il avait une dent contre lui, et il l'a bien niqué, et c'est exactement le terme qu'il emploie. Bref, toujours est-il que notre ami était invité sur différents plateaux, parce qu'il vient de sortir un livre qui est très parlant, hein, puisqu'ils disent « Ils savent que je sais tout ». Parce qu'il est bien au courant. Hein. Je vous ai sorti donc un extrait d'une de ses interventions sur les fameuses valises d'argent, vous savez, qui sont qui circulait entre États donnés par des chefs d'État africains à des présidents de la République française. Voilà, une histoire de valise.
Nous étions à Matignon. Un dimanche soir, Dominique de Villepin, Premier ministre, avait donné rendez-vous à Pascaline Bongo, le totem de son père. Nous étions à Matignon, Pascaline et moi, dans le bureau du Premier ministre, et nous attendions l'ambassadeur du Gabon. Il s'appelait Jean-Marie Adze. Il avait rendez-vous à 19h. Le malheureux est arrivé à 19h15, 20, et Dominique de Villepin s'impatientait parce qu'après, il allait chez le président de la République, M. Chirac, avec les missives. À ce moment-là, la porte s'ouvre, Adze rentre, dépose deux sacs, et il dit « Monsieur le Premier ministre, donnez-moi vite à boire, je vais faire un infarctus. C'est trop lourd !» Alors cette scène, je ne l'oublierai jamais. Alors quand vous racontez ça à certains journalistes, on a du mal à le croire.
Non, on a du mal à le croire. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer Dominique de Villepin recevoir donc deux sacs d'argent liquide. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et ça a duré longtemps. Hein. Ça a été mis en place au début des années 50, sous le général de Gaulle.
Hein. Oui, c'est, tout à fait. C'est... Avec des gens comme Focard, en particulier.
Est-ce que vous croyez que ça existe encore ?
Ah bien sûr, ah ben surtout que lui c'est un spécialiste du Centrafrique, alors là...
Oui, bon, non mais ça a dû se calmer, ça a dû se calmer.
Je crois pas parce que sans ça la France serait pas 20e, elle serait 16e, 12e.
Vous savez qu'on n'imagine pas l'influence des pays africains sur notre politique intérieure. J'ai trouvé un autre exemple, en 2005 lors du nouveau gouvernement, Bongo, en personne, a passé une liste à Jacques Chirac d'une dizaine de noms qu'il voulait voir comme ministre dans le prochain gouvernement. Et je vous jure que c'est vrai. En tout cas, c'est lui qui le raconte, Bourgui. Je vous laisse avec.
Jacques Chirac lui dit « Omar, il faudrait que tu connaisses la nouvelle génération montante à droite. » Alors il lui dit « Mais donne-moi les noms. » Alors,
ben oui.
Moi, assis à côté de lui, j'écris les noms. Et... il fait la lettre, je la porte à l'Élysée, je fais passer par le secrétariat particulier, je retourne à l'hôtel Meurice, je lui dis alors, du nouveau, il me dit, Jacques m'a téléphoné, il faut que je les reçoive tous. Et il en a reçu 7 à 8, Copé, Fillon, Bédier, et chacun se présentait. Voilà, monsieur le président, voilà. Voilà mon programme,
ben oui,
voilà ce que j'envisage, voilà ce que je pense de vous. Vous savez, nous avons tous une estime pour vous, le truc habituel. Et moi j'assistais et je me disais, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est vrai que je le pensais réellement. Où sommes-nous? Tout le monde s'en va. Le soir même, on annonce la composition du gouvernement. Au lendemain, il y en avait 7 sur les 10 nommés, dont M. Barnier.
Dont Monsieur Barnier. Voilà, c'était pour finir sur une note positive.
Euphorisante.
On a du mal à le croire.
C'est étonnant. C'est étonnant.
On a du mal à le croire. Et pourtant, voilà, il y avait un échange de bons procédés entre les pays africains et la France, hein, France-Afrique, hein, qui existait depuis longtemps. Et l'influence de ces pays, on n'imagine pas à quel point elle a pu aussi intervenir dans notre politique intérieure. Parce que là, on n'est pas sur la politique extérieure internationale, on est sur notre politique intérieure avec Omar Bongo qui a balancé des noms et qui a dit à Jacques, non, à l'époque 2005, c'était Chirac, oui. Où il a dit à Chirac, ben voilà, ceux-là, tu me les mets en tant que ministre. Et ils sont arrivés ministres. Mmh. Bravo. Voilà, alors, en espérant que ça se soit calmé quand même. J'espère.
Ça leur a appris à recevoir dignement les costumes qu'ils n'ont pas payés. Et les renvoyer, comme dit Bourgi. Oh là là, il les a renvoyés parce qu'il était coincé avec professions de sa femme, Monsieur Fillon. Et Bourgi dit, il m'a renvoyé les costumes. Ils étaient sales et tout. Et il n'y avait même pas la housse de départ. Bon, voilà.
Il aurait pu quand même les passer au pressing avant, voilà. Quand même. Hein. Franchement, c'est pas bien.
Et bon. Pour finaliser, il les a donnés à la DCCRF, là, enfin, le truc qui s'occupe, l'association, enfin, l'organisme qui s'occupe de la corruption et autres, pour les donner avec une petite note pour les petits frères des pauvres.
Sûr, avec des costards à 20 000 balles pour les petits frères
non,
des pauvres.
Non, mais je trouve que c'est admirable.
Bon, mais voilà, c'est terminé pour ce numéro du Coq à l'âne. On va remercier, bien sûr, Sébastien Fine, maire de Villars-Saint-Pancras et donc prof de maths. Voilà, c'est important de le dire. Ouais, merci d'être venu, Sébastien. Merci à toi. Merci, les gars. On se retrouve, bien sûr, dans deux mois, ici, pour un autre numéro pour le Coq à l'âne de Briançon.